333 avant notre ère, un jeune monarque, macédonien, se retourne pour observer les temples d'Issos se faire reprendre par son ennemi perse. Lèvres fines, cheveux blonds bouclés, il voit arriver face à lui l'immense Darius et ses 100 000 hommes déchaînés, des lions venus dévorer ses 35 000 compatriotes, à 3 contre 1, la faiblesse d'un troupeau de moutons en comparaison. Le nombre lui sera fatal, mais il choisit alors le terrain pour cet affrontement. Plaine qu'il connaît, et que Darius accepte, âne trop confiant en son armée. Cette bataille d'Issos lui fut en effet fatale. Ce jour de novembre, Alexandre est mort. Mais Alexandre le Grand est né, des pleurs de Darius sur la terre d'Asie. Des moutons dirigés par un lion sont plus redoutables que des lions dirigés par un âne. Cet énoncé n'est pas le mien. Il est le verbe du général américain MacArthur. Douglas MacArthur était donc militaire, mais il ne fut pas que cela. En effet, si la guerre était bien sa profession, il n'en restait pas moins citoyen. Dans ce sens, le 19 avril 1951, lors de son discours de démission devant le Congrès, il s'exprima sur son rapport à la guerre. « Je connais la guerre comme peu d'autres hommes vivants actuellement la connaissent, et rien d'autre ne m'est plus répugnant. » J'ai longuement préconisé son abolition complète, car sa capacité à détruire, alliés autant qu'ennemis, l'a rendue inutile comme méthode de résolution de conflits internationaux. MacArthur était donc un général, un militaire, mais il serait regrettable d'imaginer que ses paroles ne concernent que la sphère du combat. Ces dires sont peut-être à remettre dans un contexte plus général. Et si la notion de redoutable n'était pas destinée au plan militaire, mais à l'homme lui-même ? Des moutons, dirigés par un lion, sont plus redoutables pour l'homme que des lions, dirigés par un âne. MacArthur ferait-il référence à une situation qui lui était contemporaine ? À son époque, de l'autre côté de l'Atlantique, vivait un peuple, russe de patrie, communiste d'idéologie, dirigé par un guide, un dictateur, qui, à l'instar d'Alexandre, avait la présence d'un lion. Cette fois-ci, ce ne fut pas par une chevelure animale, mais par une moustache, aussi imposante que symbolique du maître tortionnaire. Des cheveux sombres, cette haute stature, et cette moustache. À croire que pour être un digne guide totalitaire, le port de la moustache est un fondamental. Staline, tout comme son contemporain allemand, l'arborait fièrement, pour diriger son peuple, son troupeau de moutons. Des êtres dénués d'identité, appartenant entièrement à la masse, et suivant comme un seul homme, l'idéologie communiste, fabriquée et modifiée à sa guise par le berger sélectif. Sélectif ? Eh bien oui, car les soviétiques ne voulaient ou ne pouvaient pas tous marcher avec le troupeau. Certains rêvaient d'ailleurs ou d'un autre fonctionnement pour le pays dans lequel ils vivaient. Staline n'acceptait pas cette différence. Soit vous êtes mouton en URSS, suivant la marche effrénée d'une machine communiste, soit vous êtes opposant au goulag ou dans la tombe. Cette tombe est une image, bien sûr. Le lion communiste n'allait quand même pas vous faire une sépulture à vous, l'opposant, juste bon à être éliminé. Vous ne croyez pas à tant de violence ? Eh bien, allez vérifier auprès des milliers de Polonais, officiers, médecins, étudiants ou professeurs, abattus froidement par la police soviétique à Katyn. Dans cette forêt, au printemps 1940, ce sont plus de 20 000 Polonais que l'on a massacrés. Considéré hostile à l'idéologie communiste et donc à Staline. Une poignée de morts sur les 20 millions qu'il ordonna, un triste record dans l'histoire. La menace communiste est mondiale, sa victoire dans n'importe quel domaine menace de détruire tous les autres domaines. Oh, MacArthur, tu ne crois pas si bien dire. Redoutable qu'il fût ce Staline, berger despote suivi de son mouton soviétique. Mais Staline, homme ou lion, est vulnérable face au temps, qui le rapprocha à chaque instant de la fin, jusqu'en 1953, et son trépas. Le lion est mort ce soir de mars, l'occasion pour nous de revenir sur nos pas. Un retour dans le temps et dans l'espace. États-Unis, dès la fin du 19e siècle. Cette période débutant vers 1873, une petite décennie avant la naissance d'un certain Douglas MacArthur, représente l'antithèse même du communisme totalitaire. Le capitalisme débridé. Nous sommes en 1883, le premier puits de pétrole à moins de 15 ans. quand survient le pire crack de tous les temps. Fatal pour les petites entreprises américaines, mais bénéfique pour les plus grosses, qui ont maintenant le luxe de gérer la concurrence en la rachetant ou en la laissant périr. C'est ce que fit le premier, un certain John Davidson MacArthur, en mettant en place un monopole du pétrole, passant alliance avec des concurrents, rachetant d'autres et brisant ceux qui restaient. Un lion monopolistique venait de naître, le premier d'un écosystème ultralibéral en développement. Très vite, ces monopoles, non officiels, mais bien réels, gonflèrent les fortunes. Ces hommes, devenus plus riches que des États, géraient l'économie dans leur intérêt particulier, échappant à tout contrôle, car dans un système capitaliste comme celui des États-Unis, celui qui a les dollars a le pouvoir. En comparaison de fortune, certains États et leurs représentants politiques n'avaient plus rien de dirigeant. Dépassé par des lions du privé, l'homme politique était devenu un âne, que l'on salue pour son titre et non pour son pouvoir, pour les reliques qu'il transporte et non pour sa sagesse, comme dans la fable de La Fontaine. Le pouvoir politique a tenté d'enrayer la marche effrénée de ce nouveau capitalisme, ce pouvoir économique surclassant le politique. Quelques ânes ont bien essayé de mettre les lions en cage, mais le constat de leur échec est démontré par le simple fait que le néolibéralisme tient toujours, et ce, plus d'un siècle après Rockefeller. Ce système contemporain du général MacArthur fut aussi redoutable pour l'humain, différemment du communisme, car il est plus difficile de compter son impact en nombre de morts. Non, ce capitalisme est plus subtil. Il est inhérent à notre environnement et partout et englobe tout. Ce laisser-faire économique, ce libre marché d'Adam Smith apportait son lot de dérives et de conséquences. En 1929, une de ces dérives, la bulle spéculative, est à la base du plus gros krach boursier de l'histoire, point de départ d'une crise économique sans précédent aux États-Unis, la Grande Dépression. Chômage et pauvreté, les conséquences directes d'un système capitaliste en roue libre, sans pouvoir politique de réglementation. Redoutable pour l'homme, ce n'est plus à démontrer. Mais était-ce moins redoutable que le communisme totalitaire? Communisme contre capitalisme, totalitarisme face à ultralibéralisme, égalité absolue contre liberté à son paroxysme. Russie contre États-Unis, l'Orient, ses moutons ouvriers et son lion moustachu face à l'Occident, ses lions monopolistiques et sa politique impuissante. Cette question, où je dois affirmer ou infirmer la citation qui m'a été proposée, je dois vous faire part d'un sentiment. Une sensation de blocage. Ce ressenti, il n'est pas lié à tout l'énoncé, mais à un mot en particulier. Redoutable. Oui. Des moutons dirigés par un lion sont plus redoutables que des lions dirigés par un âne. En m'attaquant à cet énoncé, j'ai tout de suite su que mon discours ne serait que confrontation. L'un contre l'autre. Le mouton contre le lion. Les lions contre l'âne. Cette lune manichéenne ne me dérangeait pas. Notre monde marche souvent sur ce modèle de l'opposition. Bien et mal, noir et blanc. Mon rôle devait être de justifier, de comparer deux situations pour définir laquelle était bonne, laquelle était mauvaise, laquelle était meilleure, laquelle était pire. Mais c'était sans compter sur le redoutable. Redoutable est mauvais, redoutable est négatif, redoutable est connoté, redoutable n'est pas une opposition. Juger sur le redoutable, ce n'est pas le manichéen noir ou blanc, ce n'est pas une opposition, c'est une nuance. Juger du plus redoutable, ce n'est pas dire lequel est noir et lequel est blanc, c'est dire lequel est noir et lequel est anthracite. Ainsi, avec cet énoncé, je me suis retrouvé à devoir définir lequel du communisme ou du capitalisme était le pire, sans chercher le meilleur. Cela ne m'intéresse pas, car donner la palme du pire à l'un, c'est accepter que l'autre est moins nocif, ce à quoi je ne saurais me résoudre. Entre la peste et le choléra, je refuse les deux, et je propose le vaccin. Ainsi, plutôt que de choisir entre l'un ou l'autre mauvais, je préfère proposer un troisième, des lions dirigés par eux-mêmes. L'idée paraît folle? Laissez-moi m'expliquer. Je rêve d'une société de citoyens, éduqués, conscients, critiques, bienveillants et collectifs. Un équilibre, un citoyen fait de sagesse, de morale et de raison. Des hommes transcendés, élevés à un stade supérieur, parés à la pratique démocratique. Une société de citoyens dans laquelle les décisions sont prises collectivement dans l'intérêt du groupe et donc de tous. Pas d'individualisme, tous sont égaux face à la loi, d'autant plus quand tous la promulguent ensemble d'un commun accord. Un idéal démocratique, immunisé contre les mots communistes et capitalistes, indifférent au totalitarisme endoctrinant et à l'ultralibéralisme destructeur, de par leur formation critique et morale. Un idéal démocratique, des lions dirigés par eux-mêmes. Voilà ce que je propose, la tache de blanc, pour contrebalancer les teintes sombres, redoutables pour l'humain. Redoutable, il l'est aussi, mais dans l'autre sens, redoutable pour les deux précédents, bénéfique pour l'homme. Réécrivons MacArthur. Des moutons dirigés par un lion sont plus redoutables que des lions dirigés par un âne, mais des lions dirigés par eux-mêmes sont redoutables pour les deux et désirables pour l'homme.
Êtes-vous ou avez-vous été membre d'un mouvement de jeunesse? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
Alors, oui, je suis membre d'un mouvement de jeunesse. Et je pense que la présence dans ce genre de mouvement est importante, car elle inculque des valeurs de solidarité, d'entraide, d'autonomie, car dans un mouvement de jeunesse, il faut savoir être autonome. Et je pense que ces valeurs solidaires, démocratiques, citoyennes, sont très importantes pour la formation de nos citoyens et pour une vision démocratique. Cette formation d'entraide est solidaire et bénéfique pour notre démocratie. Merci.